Hello, hello, bienvenue dans Occupe ton EHPAD, la nouvelle émission du collectif Occupe ton Ergo. Je suis Florine Levionnois, j'ai travaillé 5 ans en EHPAD et aujourd'hui je suis formatrice en IFE. Avec l'émission Occupe ton EHPAD, je souhaite offrir un espace d'échange autour de l'accompagnement des occupations des résidents, c'est-à-dire les activités quotidiennes qui ont du sens pour eux. À chaque épisode, un ergothérapeute de terrain te partagera son expérience et les petites actions simples qui pourraient être mises en place pour développer sa pratique en EHPAD autour des occupations. Bonne écoute! Dans ce deuxième épisode, nous accueillons Sandrine Ménesson. Sandrine, elle a été diplômée ergothérapeute en 2003, année où les occupations n'étaient pas forcément présentes dans la formation initiale des ergothérapeutes. Et donc, elle a dû faire ce virage occupationnel au fur et à mesure de sa pratique. 2003, c'est aussi l'année de la canicule. Donc, c'est l'année où il y a eu le développement de propositions au niveau politique pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées, ce qui a eu pour comme conséquence des ouvertures de postes au niveau des ergothérapeutes. Et donc Sandrine, elle, dans son parcours, elle a eu surtout un parcours au niveau de la gériatrie où elle a pu être ergothérapeute dans diverses structures, autant dans des structures attachées à des lieux de vie que dans des structures liées au domicile des personnes. Donc elle a une idée assez globale du parcours d'une personne âgée en France. Aujourd'hui, Sandrine, elle est libérale et donc elle fait principalement de la formation continue, mais elle exerce aussi en EHPAD, plutôt à un niveau méso, c'est-à-dire à un niveau institutionnel avec l'accompagnement des équipes et l'accompagnement des projets de vie des résidents. Récemment, Sandrine, elle a fait une étude sur le sommeil des personnes âgées et plus principalement sur ce qui se passe pendant la nuit des personnes âgées. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce podcast. Eh ben, bonjour Sandrine.
Bonjour Florine.
Merci du coup de prendre ce temps-là pour échanger là, dans cet épisode sur le sommeil et puis la nuit des personnes âgées en EHPAD. Du coup, j'avais une première question pour toi par rapport à ça, c'est par rapport au sommeil et à la nuit des personnes âgées, c'est quoi les difficultés que tu peux voir sur ce sommeil et les besoins des personnes par rapport à cette thématique ?
Peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un temps qui n'est pas tellement investi de façon générale dans les EHPAD, que ce soit par les ergothérapeutes, mais peut-être par les équipes en général. Souvent, on a une équipe qui est extrêmement restreinte sur l'accompagnement de nuit, sur les mêmes établissements qui ont plusieurs équipes pendant la journée. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui est très exploré de façon pratique. Et après, dans l'état des lieux des connaissances, ce qu'on peut se dire, c'est que avec l'avancée en âge, les personnes, on sait qu'on a un sommeil qui va évoluer. Le sommeil, il évolue à la fois en qualité, on a des rythmes qui sont un petit peu modifiés. La quantité de sommeil va varier aussi. On sait qu'on va avoir des rythmes de sommeil qui varient, une quantité de sommeil qui varie, une qualité de sommeil qui varie. On sait aussi que l'impact de l'environnement, il a été souligné à quelques reprises dans la littérature. Et puis, il y a cette idée de l'angoisse nocturne qui ressort et qui est voilà, qui est aussi présente chez les personnes âgées. Une fois qu'on a dit tout ça, en fait, on a actuellement peut-être pas énormément d'actions qui sont mises en place. Donc, l'intérêt, c'était d'aller questionner un petit peu ce temps, alors à la fois du sommeil, qui va être principalement la nuit, mais peut-être aussi du sommeil de journée, avec des temps de sieste parfois. Et peut-être pareil, en tant qu'ergothérapeute, c'est une vraie activité ou une vraie occupation qu'on peut aller investir et que peut-être on n'investit pas tant que ça.
D'accord, ok. Du coup, par rapport à ce que tu dis, il y a deux choses que j'ai relevées, c'est que en EHPAD, donc la nuit, les équipes sont restreintes alors que le jour, les équipes sont plus complètes. Tu penses que dans les équipes de jour, il y a des choses qui pourraient être faites qui serviraient justement à la nuit?
Alors oui, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites en équipe, effectivement, parce que je pense que c'est très important que ce soit un projet investi par une équipe dans son ensemble. Et peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il y a, par exemple, une prise en considération de la personne dort-elle? Parce que finalement, quelqu'un qui dort mal ou qui dort peu ou qui... pour qui on ne répond pas à ses besoins sur cette occupation qu'est le sommeil, en fait, elle va avoir une qualité de vie qui va se dégrader parce que c'est vital de bien dormir. Donc, avoir une vigilance et une attention portée sur est-ce que la personne dort la nuit, est-ce qu'elle dort le jour, est-ce que c'est régulier ou pas, est-ce qu'elle met en place des routines pour pouvoir faciliter l'endormissement, est-ce qu'elle a des difficultés à s'endormir, est-ce qu'elle se réveille plusieurs fois. Est-ce que elle s'empêche de faire la sieste? Peut-être aussi aller chercher sur les croyances autour du sommeil. Est-ce que des fois les gens pensent que faire une sieste, ça empêche d'avoir une bonne nuit? Peut-être qu'il y a aussi des idées à aller investiguer parce que c'est pas le cas. Et donc chacun va pouvoir être à son niveau sur des observations. Donc ça peut être l'équipe qui est pas mal en contact avec les résidents. L'ergothérapeute va pouvoir peut-être recenser un petit peu avec la personne qu'est-ce qu'elle met en place, comment est-ce qu'elle s'organise, comment est son environnement, qu'est-ce qu'elle a comme mécanisme pour faciliter son endormissement, comment est-ce qu'elle parle de son sommeil éventuellement, ou bien faire des échanges avec l'équipe pour savoir ce que l'équipe en dit. Une fois qu'on a tout ça, il y aura le travail de l'analyse pour dire est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré ou pas par rapport au fonctionnement actuel pour améliorer finalement la qualité de vie du résident qui est concerné. Voilà, donc ça peut être ces temps d'échange en fait entre ce qui est observé par les uns par les autres et puis après avec cette démarche en fait de l'ergothérapeute qui va être à la fois sur la personne, sur son environnement, sur ses occupations, mais du coup ça va permettre d'avoir des éléments dans chacun de ces facteurs.
D'accord. Et du coup, je suis curieuse, est-ce que il y a des évaluations qui existent ou est-ce que ce serait aux EHPAD de créer un petit peu leur trame de suivi du sommeil en prenant en compte le sommeil avant l'entrée en EHPAD, le sommeil ensuite pendant l'EHPAD et puis ce qui se passe la journée aussi pour avec tous les éléments que tu as dit qu'il était important de recenser par rapport justement à cette nuit et à ce sommeil? Ou est-ce que bien il existe des outils déjà peut-être conçu.
Alors, il n'y a pas beaucoup d'outils qui existent à ce jour, ou sinon, il y a des outils qui sont vraiment sur la qualité du sommeil, mais peut-être que ça ne suffit pas. Si on l'envisage comme une occupation au sein des ergothérapeutes, ça ne va probablement pas nous suffire. Donc, je pense qu'il va falloir être créatif par rapport à ça. On a des outils quand même qui peuvent nous soutenir, donc à la fois sur l'évaluation du sommeil. On a aussi une proposition qui est faite en prévention primaire via TAPES, qui est donc une nouvelle proposition qui vient d'être faite dans le domaine de l'ergothérapie en France et qui aborde justement cette occupation qui est le sommeil. Et ça peut être une autre piste pour se doter d'outils, de références aussi bibliographiques pour aller sur ce champ-là. Et puis après, je pense qu'on a par ailleurs la démarche Ergo qui va venir aussi être un bon outil pour avoir une vision qui soit très globale de la situation de la personne.
D'accord. Et à deux reprises, du coup, là, j'ai entendu que tu parlais d'occupation et tu disais que l'ergothérapeute, il allait pouvoir faire ce lien entre la personne, son occupation, son environnement. Et au tout début du podcast, tu nous as aussi dit que l'environnement pouvait influencer la nuit et le sommeil. Est-ce que tu vois des éléments sur l'environnement qu'est l'EHPAD qui pourraient influencer ce sommeil-là et cette nuit-là, et sur lequel peut-être l'ergothérapeute pourrait agir.
Alors, je pense qu'effectivement, va y avoir des leviers. Et si on entend en plus l'environnement au sens où nous, on va l'entendre, va y avoir probablement déjà un vrai travail au niveau de l'environnement humain. Donc, un gros travail avec les équipes, encore une fois, pour sensibiliser l'ensemble de l'équipe à l'intérêt du sujet. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre en considération cette occupation-là? Donc, ça peut être un premier niveau. D'intervention. Après, on peut aussi imaginer qu'on peut, nous, aller sur l'aménagement de l'environnement d'une façon qui est peut-être un peu plus classique pour nous, avec une réflexion sur les éclairages, l'éclairage, par exemple, qui pourrait être rassurant pour pouvoir s'orienter, pour apaiser, réfléchir sur les couleurs qui sont faites. Qui sont proposés. On pourrait aussi avoir des facilités pour réaliser des transferts qui soient sécurisés. On pourrait avoir les systèmes d'appel qui sont éventuellement automatisés. Par exemple, la personne se lève et on déclenche soit un système d'appel, soit au moins un éclairage. Tout ce qui est sur la réflexion sur la continence avec différentes aides techniques que peut-être on connaît davantage, qui vont permettre aussi de répondre à des besoins qui peuvent motiver des levées de la personne. Et puis après, on pourrait aussi réfléchir à l'environnement de façon un petit peu différente quand on a par exemple des personnes qui ont des comportements de type déambulation par exemple où les personnes vont être amenées à se promener dans des couloirs qui sont pas forcément très faciles à comprendre en fait pour une personne qui est désorientée, qui peut-être est en pleine nuit, qui comprend pas trop où est-ce qu'elle est. Peut-être qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on peut aménager, par exemple, des salons d'accueil pour les résidents, ceux qui n'arriveraient pas à se rendormir, comment est-ce qu'on peut mettre en place des activités qui soient plutôt apaisantes, qui soient rassurantes dans ces petits salons-là. Donc ça passe aussi par former l'équipe, parce que si nous, en tant qu'ergo, on n'est pas là la nuit. Du coup, va falloir former l'équipe à ça. Et donc, ça peut être intéressant. Alors, je pense par exemple aux assistants de soins en gérontologie qui parfois ont une formation complémentaire sur les troubles cognitifs des personnes et sur les activités. Et peut-être que du coup, c'est des collègues avec qui on peut mettre en place des actions et des propositions au niveau de l'établissement qui soient de cet ordre-là.
D'accord. Et par rapport du coup à la nuit, tu disais que l'ergo ne pouvait pas s'y trouver, mais que ça serait important de pouvoir, entre guillemets, proposer des activités aux personnes qui se lèveraient la nuit. Comment tu vois ces activités? Est-ce que ça serait, il y aurait besoin de personnel pour les mener? Est-ce que ça serait plutôt travailler avec le résident en individuel pour que lui sache ce qu'il peut faire la nuit et comment ça pourrait lui servir. Voilà, comment tu vois ce temps de nuit et ces activités qui pourraient servir au sommeil ou en tout cas à une bonne qualité de nuit si le sommeil n'est pas présent?
Alors, je pense que tu as cité pas mal de choses qui vont bien dans ce sens-là. En fait, je pense qu'il y aurait sûrement différents niveaux. Je pense qu'il y aurait des actions à faire avec les résidents, encore une fois, pour informer, pour considérer aussi cette occupation-là. Et ça, je pense que ça peut être déjà un premier niveau qui est déjà vraiment pertinent. Questionner la personne sur comment est-ce qu'elle dort, est-ce que du coup quand elle a fini l'assiette, elle se sent fatiguée ou pas, quand elle a fini la nuit, est-ce qu'elle sent de bonne humeur ou pas, est-ce qu'elle a envie de faire des choses ou pas dans sa journée, est-ce qu'elle a... Voilà, tout ça déjà, ça va être le premier niveau avec un impact direct avec le résident. Après, il y aura tout ce travail au niveau de l'équipe sur informer l'équipe, la former sur l'impact du sommeil pour les personnes âgées, sur l'évolution du sommeil, comment est-ce que le sommeil évolue avec l'avancée en âge, s'il y a des troubles cognitifs, des troubles du comportement. Après, ça va être tout ce qui est sur les thérapies et les approches non médicamenteuses. Parce que une des réponses possibles, c'est que si la personne se lève ou a un sommeil qui est réduit en temps, parfois on va proposer des médicaments qui vont permettre de faciliter un temps de sommeil qui sera prolonger, mais est-ce que du coup la qualité de nuit va être présente? Ça reste une question, donc je pense qu'il faut aller chercher ça et que du coup former l'équipe va être aussi important. Et puis après, il va y avoir aussi le rôle de l'ergo auprès de la hiérarchie, c'est-à-dire que si on se dit que peut-être il pourrait y avoir des actions qui soient des approches non médicamenteuses qui soient mises en place sur la nuit, ça veut dire aussi que avec la hiérarchie, il va falloir expliquer ce projet-là, le travailler ensemble et se dire ben, si on veut mettre en place un salon dans un espace qui est un espace partagé, qui n'est pas forcément la chambre d'un résident en particulier, mais plutôt un espace voilà, qui est encore une fois social en fait, donc partagé, et ben, il va falloir qu'il soit quand même accueillant, qu'il soit cocooning, qu'il soit. Et donc, ça veut dire que tout ce travail-là, il faut que l'encadrement de l'établissement soit partie prenante. Et donc, je pense que là encore, l'ergothérapeute va avoir un rôle pour convaincre aussi à ces différents niveaux. Voilà.
Donc dans ce que tu dis, j'entends ces fameux trois niveaux là que j'avais pu mettre en avant dans le premier épisode, c'est-à-dire s'intéresser aux résidents sur un niveau un peu plus micro, s'intéresser du coup aux équipes, accompagner les équipes sur plutôt du méso et aller voir plutôt au niveau institutionnel, hiérarchie, au niveau macro. Et c'est souvent ce troisième palier qui peut être difficile. Quel conseil tu donnerais à des ergothérapeutes qui voilà voudraient s'intéresser au sommeil et à la nuit des personnes âgées pour aller motiver, justifier, argumenter, mettre en place ce projet auprès de la hiérarchie?
Alors, je pense qu'il faut être assez informé sur le sujet dont on parle et peut-être qu'une une idée qui me vient, c'est d'avoir quand même un bagage qui soit étayé par de la littérature au maximum pour, bah, pour se sentir à l'aise dans le sujet qu'on est en train d'amener. Ça me semble vraiment important. Et puis après, c'est de se sentir aussi agent du changement en tant qu'ergothérapeute et donc de se sentir dans cette place possible. Et si on parle des occupations des résidents, si on est dans un EHPAD, en fait, on a quelque part cette place possible à aller voir la hiérarchie pour expliquer des projets, les travailler ensemble. Peut-être que tout n'est pas possible à mettre en place. Peut-être que dire que demain, il faudrait qu'il y ait 10 personnes de nuit là où aujourd'hui il y en a deux, c'est peut-être très compliqué, surtout quand on sait les difficultés de recrutement, de turnover qu'il peut y avoir dans les voilà, dans les équipes, dans le milieu. Voilà, on se doute que c'est probablement pas très réaliste, mais pour autant, d'associer les différentes parties prenantes, ça va être essentiel pour la réalisation du sujet. Et puis, donc, on se dit, ben, on s'appuie sur donc, de la littérature qu'on a investiguée. On associe donc au maximum les différents partie prenante sur le projet. Et puis peut-être aussi on peut commencer par des petits projets, en fait. Se dire que si on a vraiment envie de travailler sur cette occupation-là et de l'intégrer dans sa pratique pour améliorer toujours la qualité de vie des résidents, et ben peut-être qu'on peut commencer par faire des petites actions sur des temps de sieste, qu'on peut faire déjà un relevé le matin, en fait, avec les équipes pendant les transmissions pour savoir ben, est-ce que l'équipe de nuit, avant de partir, eh ben, elle a quelque chose à dire sur comment ça s'est passé la nuit. Est-ce que l'équipe du matin peut nous dire bah, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, les résidents, on peut leur demander qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, est-ce qu'ils se sentent de bonne humeur ou pas, est-ce qu'ils se sentent fatigués ou pas, alors qu'ils viennent juste de se lever et d'avoir une vraie considération pour ça. Et ça, c'est des petits changements. Et peut-être que ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place pour construire progressivement un projet qui serait peut-être un petit peu plus de plus grande ampleur.
Du coup, là, dans le petit projet dont tu parles, j'ai l'impression que c'est déjà, dans un premier temps, soulever le besoin par rapport à cette thématique-là, et pour pouvoir ensuite, bah, voilà, proposer des actions qui répondraient aux besoins soulevés.
Oui. Alors oui, parce que ça va faire partie de la démarche ergo, mais par contre en étant peut-être aussi convaincue que c'est vraiment une occupation et encore une fois l'AOTA, donc qui est l'association des ergots américains, en fait propose qu'on intègre le sommeil et le repos comme des occupations en fait en soi. Et donc voilà, se dire que on a aussi une contribution possible à apporter, c'est pertinent. Et puis de bien mesurer que quelqu'un qui a une mauvaise qualité de sommeil ou de repos, en fait, va avoir une influence négative sur ses performances occupationnelles en général, parce que peut-être sur cette occupation, elle n'est pas très bonne. Et puis, in fine, sur d'autres occupations, elle va probablement se retrouver aussi. Une personne qui va moins bien dormir, elle va avoir moins envie, elle va avoir être plus fatiguée, elle sera. Voilà. Et donc, on va rentrer dans quelque chose qui a beaucoup de sens.
Ouais, donc vraiment l'importance de justifier cet intérêt de la nuit par rapport à ce jour qu'on prend déjà en considération en EHPAD, quoi. De vraiment montrer l'intérêt, quoi. C'est un peu comme de la prévention finalement pour le jour, quoi.
Oui.
Du coup, dans ce que tu m'as dit, donc tu as parlé déjà, tu as disséminé un peu toute la place que pourrait avoir l'ergothérapeute là, sur cette thématique du sommeil, de la nuit en EHPAD. Dans ce que j'ai entendu, c'est que l'ergothérapeute, il aurait un rôle sur l'évaluation, voilà, se poser des questions sur le sommeil, sur le repos, sur la nuit. Il va avoir un rôle auprès des équipes sur de la formation, de la sensibilisation et de la collaboration, et un rôle aussi au niveau peut-être de l'aménagement de l'environnement. Est-ce que tu vois d'autres actions qui pourraient faire partie du rôle de l'ergothérapeute et qui agiraient sur cette nuit et ce sommeil?
Alors il y a l'activité physique aussi qui est voilà toutes ces interventions autour de l'activité physique tout ce qui voilà ça viendrait probablement compléter parce que je pense que du coup sur les autres points voilà il y a quelque chose qui a déjà
Donc,
été bien récapitulé.
du coup, s'assurer que la personne elle est assez active dans la journée pour favoriser un bon sommeil. Et est-ce que, je sais pas, je me dis, comment on peut évaluer que la personne a été assez active pour permettre un bon sommeil? Est-ce que c'est juste du subjectif, du coup, et de l'observation, ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à ça?
Alors, je pense que c'est pareil, ça passe déjà par un premier niveau qui serait de s'intéresser à la question. En fait, dans l'équilibre des occupations de la personne, est-ce que, voilà, est-ce que du coup, le sommeil et le repos ont une place suffisante ou pas? Est-ce que l'activité physique a une place ou pas? Et ça, c'est déjà des éléments, des premiers niveaux d'éléments qu'on pourrait avoir. Est-ce que la personne à une activité physique est suffisante. Et là, on peut s'appuyer sur les recommandations de l'OMS sur la pratique de l'activité physique qui, voilà, qui nous donne des indicateurs assez établis sur les temps qui sont indiqués. Et donc ça peut être aussi des soutiens qu'on peut avoir sur cette évaluation de l'activité physique des résidents. Savoir est-ce que du coup c'est des personnes qui pratiquent une activité physique et peut-être aussi qui ont des activités qui soient un petit peu diversifiées, des activités qui font sens pour eux et puis pour refaire la boucle avec la qualité de la nuit c'est de se dire que finalement si on passe une mauvaise nuit, il y a un impact en fait sur le jour qu'on va passer derrière. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur une étude alors pour les personnes âgées, mais qui n'avaient pas de troubles du sommeil, pas de troubles neurocognitifs et qui vivaient à domicile. Donc on s'éloigne un tout petit peu du public dont on est en train de parler. Mais pour autant, on a pu identifier qu'en fait, si on passe une nuit de mauvaise qualité, alors pas forcément liée au fait de se lever, parce qu'on a vu que toutes les personnes se lèvent la nuit quasiment, Mais du coup, si on passe une nuit de mauvaise qualité, en fait, on passe une journée de mauvaise qualité avec des indicateurs qui étaient sur est-ce que je fais les activités que j'avais envie, est-ce que mon moral il est bon, est-ce que je me sens fatiguée, est-ce que cognitivement je me sens capable de faire les mêmes choses que d'habitude ou pas. Donc, on avait différents indicateurs et donc bah, se rappeler ça pour le public. Dont on s'occupe en fait quand on travaille en EHPAD, c'est de se dire que si la personne n'a pas une bonne qualité de vie, en fait sa journée derrière va être plus compliquée et réciproquement, si je passe une mauvaise journée parce que j'ai pas assez d'activités qui font sens pour moi, parce que voilà, je me sens isolée, parce que j'ai pas d'interaction avec les autres, parce que et ben du coup ma nuit va être probablement de moins bonne qualité aussi. Voilà.
Dans ce que tu disais, du coup, j'avais l'impression de, sur, tu sais, ce ratio, le temps de sommeil, l'importance accordée au repos, le temps d'activité physique, le temps accordé à ce qui a du sens pour moi, ça fait penser un petit peu au concept d'équilibre de vie et d'équilibre occupationnel, qui du coup est important à avoir pour avoir sa qualité de vie. Et je sais qu'il existe des outils pour certains outils en tout cas pour évaluer ça, mais je ne sais pas si le sommeil est pris en compte. Je sais qu'il y a l'inventeur de l'équilibre de vie par exemple qui existe, mais je ne sais pas s'ils ont mis un encart et à quel point il est important sur ces temps de sommeil et de repos. Et dans la deuxième chose que tu as dit, je trouve ça intéressant parce que tu as dit toutes les personnes se lèvent la nuit, et c'est pas forcément synonyme de bonne nuit ou de mauvaise nuit. Et je trouve ça intéressant de pouvoir peut-être accompagner les personnes à s'adapter justement à ces levées nocturnes. Et parfois, je trouve que c'est difficile de savoir bah, quoi faire quand on est réveillé, quand on veut dormir, quelle stratégie on peut mettre en place justement pour ne pas subir ce réveil, ou peut-être aussi si on peut arriver à se rendormir, ça pourrait être, est-ce que ça pourrait être selon toi des actions sur lesquelles l'ergothérapeute pourrait travailler?
Alors oui, je pense que c'est exactement le sujet, c'est-à-dire se lever parce que le sommeil change encore une fois en rythme, en qualité et en quantité. En fait, le lever et les réveils, en tout cas le réveil fait partie des choses qui se passent de façon quasi systématique. Et du coup, se dire comment est-ce qu'on propose à la personne de réfléchir à des routines peut-être qui pourraient être apaisantes. Comment est-ce qu'on s'empare en fait déjà du sujet, déjà pour en parler avec les personnes, parce que peut-être c'est pas toujours des discussions qu'on a avec les résidents qui sont sur l'EHPAD. Donc ça c'est le premier niveau. Et puis bah, on a par exemple dans l'étude des personnes qui disaient mais moi en fait je fais quelque chose parce que si j'essaye de me rendormir de suite sans me lever, en fait j'y arrive pas du tout et c'est pire que tout, je passe un temps infini en fait à me rendormir, alors que si je fais quelque chose, alors ça peut être de la lecture, des mots croisés, ça peut être en général il est recommandé quand même d'éviter les écrans. Mais pourquoi pas, je ne sais pas, du yoga, enfin, selon les appétences un petit peu de chacun et les possibilités de chacun, peut-être ça peut être des propositions qui sont, pourquoi pas, de la sophrologie avec des exercices un peu de respiration. Ça peut être des pistes, en fait, qui peuvent être travaillées avec les résidents, pourquoi pas, en atelier la journée pour pouvoir se dire ben, ce que j'ai fait dans la journée, si à un moment je veux le refaire la nuit, peut-être d'avoir pris l'habitude de le faire dans la journée, je peux le réinvestir pendant la nuit si j'en ai les moyens. Et puis après, idéalement, on va dire que, un petit peu comme pour beaucoup de propositions sur les EHPAD, l'humain serait quand même une vraie solution, c'est-à-dire qu'être les résidents ont besoin d'accompagnement. Et donc, s'il peut y avoir des équipes qui sont ne serait-ce que déjà formées dans les équipes de nuit, on parlait des ASG tout à l'heure, ça peut être un vrai plus en fait que d'avoir une bonne compréhension de ce qui se joue pour les résidents. Bon, après, il y a le principe de réalité, s'il n'y a que deux personnes pour une centaine de résidents, en fait, on mesure pleinement que ça va être difficile d'aller beaucoup plus loin dans les propositions que ce qui est déjà fait aujourd'hui. Mais pour autant, il y a certains établissements qui ont développé d'autres types de propositions. Je pense par exemple des pasas de nuit. Et ça peut être vraiment intéressant voilà, de pouvoir y réfléchir, mais ça peut pas être décidé tout seul, même si on pense que c'est une très bonne idée, s'il n'y a pas un soutien de l'établissement et des possibilités financières par rapport à ça, en fait, ça ne verra pas le jour. Mais s'il y a déjà des AG qui sont formés dans l'établissement, qui font partie de l'équipe de nuit, ça peut être déjà des premières pierres hein, pour construire ce type de projet, peut-être.
Bon, d'accord, toi, tu penses que ça pourrait être la solution humaine qui serait intéressante, ces AG de nuit et ces PASA de nuit. Et du coup, moi, je me dis, mais est-ce que toi, tu verrais un intérêt à avoir des ergothérapeutes de nuit? Et si jamais, c'est un jour, dans un monde idéal, avec des financements, on pouvait mettre ça en place, est-ce que tu vois quel rôle, quelles actions ils pourraient faire sur ces nuits-là?
Alors moi, je pense qu'il pourrait y avoir un rôle et que si par exemple on a des espaces qui sont dédiés à l'accueil de certains résidents, je pense qu'il y aurait un vrai travail à faire à la fois au niveau de l'aménagement de l'environnement pour créer des espaces qui soient repérables, qui soient conviviaux, qui soient rassurants, qui soient bien identifiés aussi à la fois par les collègues et puis par les résidents. Et je pense que l'ergothérapeute, oui, pourrait avoir une place, comme tu dis. Après, ça dépendrait de... Enfin, ça changerait peut-être les pratiques habituelles d'aujourd'hui.
Parce que du coup, je me disais, tu vois, dans la démarche ergo qu'on lui propose, notamment dans le cadre aussi de l'OTIPEM, qui est un modèle de pratique, il y a toute cette partie au niveau de l'évaluation où on lui dit de s'entretenir avec la personne justement sur ses occupations. Donc, c'est ce que tu disais au début, d'aller s'intéresser à ça. Mais il y a une deuxième partie sur la mise en situation. Et je me dis, voilà, par rapport au sommeil à la nuit, est-ce que ça aurait un intérêt d'analyser entre guillemets le sommeil, la nuit sur un principe de mise en situation et d'analyse entre guillemets de la performance qui peut être fait des fois dans des cliniques du sommeil sur un terrain beaucoup plus biomédical. Est-ce que nous, on aurait un intérêt de mettre une petite caméra et d'avoir cet autre regard que ce que nous en dit la personne, ou est-ce que selon toi, ça apporterait pas forcément plus?
Alors, je ne sais pas peut-être te répondre de but en blanc. Je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire des informations qu'on récupère à travers ces enregistrements. J'imagine a priori beaucoup l'enjeu sur l'impact que peut avoir la qualité de sommeil sur la qualité de vie de la personne et donc sur qu'est-ce que je peux faire en fait derrière, comment je me sens après que j'ai dormi, etc. Et peut-être que je me dis qu'il y a déjà des professionnels, notamment des médecins, qui se mobilisent sur la question de la qualité du sommeil. Pour autant, par rapport à tout ce qu'on a dit, on peut très bien imaginer que dans une perspective d'approche non médicamenteuse, on puisse avoir aussi des interactions avec les médecins pour voir ensemble, selon les problématiques qui sont soulevées par certaines personnes qu'on trouverait à accompagner aussi, nous, à l'EHPAD, peut-être que du coup, on peut réfléchir à une autre... d'autres propositions que les médicaments et ou en complément ou pour alléger certains traitements qui éviteraient peut-être des fois des risques de chute complémentaires parce que si on multiplie les prises de traitement, en fait, notamment tous ces traitements vont avoir souvent sur le sommeil des impacts sur la vigilance, sur l'attention des personnes et donc peut-être que les risques de chute sont majorés parce que le temps de récupérer bien toute sa vigilance, toute son attention qui vont être mobilisées sur... tous les déplacements, peut-être que du coup, ça peut avoir un intérêt. Donc, sur les moyens mis en place sur l'évaluation propre du sommeil et du repos, à réfléchir sur, comme pour toute évaluation, sur qu'est-ce qu'on obtient comme info et qu'est-ce que ça va pouvoir me donner derrière. Et puis, on a aussi le temps de la sieste. Dans nos pratiques actuelles, en tout cas, et dans notre façon de faire actuelle, il y a cet accès aussi à la sieste pour dire si on a besoin de temps d'observation, on a déjà accès de façon habituelle. En fait, on est là au moment des siestes, donc c'est quelque chose qu'on peut peut-être observer. C'est pas la nuit, mais c'est malgré tout un temps de repos. Et après, voilà, toujours c'est bien se poser la question de qu'est-ce que je fais de ça après. Et puis, si on est sur des caméras ou autre, se posera toute la question qu'on a déjà un petit peu avec les systèmes de télésurveillance, c'est de savoir, ben voilà, l'information de la personne et le traitement des données, ce qu'on en fait, voilà, qui sont des considérations aussi à avoir sur ce genre de propositions.
Ce que tu dis, ça m'évoque il faudrait des recommandations finalement sur le sommeil et le repos des personnes âgées en EHPAD, donc des recommandations propres aux EHPAD et aussi pourquoi pas au niveau plus de notre profession, une recommandation sur bah, qu'est-ce que l'ergothérapeute peut faire par rapport au sommeil. Après, je ne sais pas à quel point c'est spécifique à une population ou à une autre et pourquoi pas même une formation quoi, sur le sommeil et le repos parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lesquels on n'a pas forcément, enfin c'est pas forcément présent dans les formations initiales et on n'a pas forcément d'outils. Donc avoir ces recommandations, une espèce de boîte à outils aussi, ça serait super intéressant à développer, je pense.
Je partage pleinement.
Mon
Si.
avis, super. Et du coup, ben, pour commencer sur ce début de recommandation, toi, Sandrine, ce serait quoi les trois messages clés ou les trois choses que tu voudrais que les personnes qui écoutent cet épisode sur le sommeil en EHPAD retiennent?
Le premier, c'est que l'occupation. Qu'est le sommeil et, enfin, que sont le sommeil et le repos, en fait, contribuent à la qualité de vie des personnes âgées et que finalement, s'intéresser à ces occupations participe à cette finalité qui est d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Donc ça, ce serait peut-être le premier message, c'est ne les oublions pas. Peut-être une deuxième, c'est de se dire que ça fait partie des... Déjà, alors un peu des voies sur lesquelles on a invité. Donc encore une fois, l'association américaine a proposé une classification des occupations et propose aux ergothérapeutes de s'intéresser à la nuit. Et donc ça va dans ce sens-là. Et donc voilà, s'appuyer sur ces courants qui nous sont proposés. Ben, en fait, je pense que c'est peut-être un deuxième point. Voilà, d'aller investiguer et donc de développer notre profession et de contribuer à développer la profession aussi en allant dans ces champs-là. Pourquoi pas, si quelqu'un a envie d'écrire des recommandations, de s'intéresser à ça, je pense qu'il y a la porte est grande ouverte. Et puis, le troisième point, ce serait aussi de se sentir, on l'a dit tout à l'heure, de se sentir agent du changement. À la fois pour les résidents, pour prendre en considération qui ils sont complètement, mais aussi par rapport aux collègues, par rapport aux institutions et finalement par rapport à la profession, parce qu'on peut contribuer à ça chacun à notre niveau et je pense que c'est important de sentir ce champ des possibles, voilà, qui nous appartient à tous et avec des étapes qui vont rester smart, voilà, pas se mettre des enjeux incroyables, mais commencer par petit et puis se dire que petit à petit le changement peut se faire et que les choses peuvent évoluer. Voilà.
Tu me fais une parfaite transition là sur le petit à petit. Si les auditeurs là étaient intéressés par ce sujet, pour commencer, qu'est-ce que tu conseillerais, soit une formation, soit une personne ressource qui traite du sujet, ou bien un ou deux articles, voilà, qu'est-ce que tu leur conseillerais là en première contenu d'information?
Eh ben, j'avais peut-être particulièrement en tête, puisqu'on en a parlé sur une expérience sur un PASA de nuit. Donc, c'est l'expérimentation d'un PASA de nuit qui est sur un site internet, c'est celui de Fondation Partage et Vie. Et voilà, je me dis que ça peut être une illustration concrète en fait de comment peut fonctionner un PASA de nuit. Donc, peut-être s'il y en a un à retenir avec des actions un petit peu concrètes, et eh ben c'est celui-ci que j'aurais envie de peut-être partager là maintenant tout de suite.
Ouais, qui est plus qu'on peut prendre en main directement et qui est plus parlant. Bah, on pourra mettre le site web en description de l'épisode. On mettra le lien, du coup,
Très bien.
pour que les gens puissent aller voir. Super. Je sais pas, Sandrine, si tu souhaites faire un mot de la fin ou si tu as quelque chose à rajouter sur cet épisode avant qu'on clôture.
Eh ben non, moi juste merci d'avoir proposé en fait cette opportunité de parler de ces occupations-là parce qu'elles sont encore assez marginales dans nos pratiques et voilà, et je pense que c'est intéressant de pouvoir diffuser autour de ce sujet. Voilà.
Bah, merci à toi pour toujours le temps accordé et puis ton expertise, ton point de vue. Voilà, il y a des jolies choses qui émergent et qui sont à faire dans le futur. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois avec une nouvelle thématique et un nouvel invité. À la prochaine!